Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour. Je reçois en interview numéro 2 Hervé Bollard, directeur général Incroyable Territoire. Bonjour Hervé.
Bonjour Myriam.
Bon, alors j'incite les auditeurs à écouter l'interview numéro 1. Extrêmement intéressante. Bon, Incroyable Territoire, on a parlé du mot, du verbatim autour de ce mot et de tous les exemples. On était en train de parler de galeries, d'éphémères ou de, on va dire, dans un lieu d'à peu près 200, 300 mètres carrés, le fait de mettre des petites unités et de distribuer différents espaces. Pouvez-vous nous en parler un peu plus ?
Oui, alors c'est le nouveau concept qu'on a développé à la demande quelque part de la Banque des Territoires qui nous a dit grosso modo les programmes d'accélération, il y a des porteurs de projets qui ne se lancent pas à l'issue de ces programmes. Pourquoi ? C'est des indépendants, c'est souvent des artisans, c'est souvent des gens qui font des marchés et qui ont peur de se lancer.
Ils ont peur de signer un bail 369,
qui est très contraignant, qui est protecteur pour lui, mais aussi contraignant quand on ne sait pas si son activité va être suffisamment solide, premièrement. Deuxièmement, on va créer dans notre espace commercial commun, on va créer de la flexibilité contractuelle. C'est-à-dire que c'est 3 mois d'engagement, et après, tous les mois, ils peuvent résilier s'ils ont envie, d'accord, si l'activité n'est pas là. Premièrement. Deuxièmement, ils vont prendre la superficie qui correspond exactement à leurs besoins. En fait, quand on crée des bijoux, ou on crée des sacs à main, on n'a pas besoin de 50 mètres carrés.
Ça suffit.
Exactement. Ouais. Deuxièmement. Troisièmement, on va les accompagner, c'est-à-dire que tous les mois, ils bénéficieront d'un accompagnement d'un spécialiste du commerce qui va les aider sur leur communication, sur leur sur leur stratégie de fournisseur, sur leur pricing, sur etc. Donc ils vont monter en
compétences. Alors il y a un lieu, ça me fait penser à un lieu comme ça. Alors on s'éloigne de l'Île-de-France, mais on va y revenir, à côté de la piscine à Roubaix, où il y a ce lieu qui est très sympa, où il y a un café, enfin un restaurant aussi. Est-ce que là aussi vous mettez en place de la restauration du café pour pouvoir maintenir un peu le...
Exactement.
Voilà, les consommateurs sur place.
Oui, à chaque fois, on a à l'entrée un petit espace alimentation tenu par justement un porteur de projet qui veut se lancer et qui propose toujours un petit café ou des boissons non alcoolisées et qui crée justement ce moment de convivialité. Et donc on se retrouve avec des gens qui travaillent sur des questions d'alimentation, des questions de mode, des questions d'équipement de la personne, et au fond, en général, on a des services à la personne type massage, tatouage, machin. Et donc c'est tout un univers. Des gens qui apprennent à travailler ensemble, souvent des artisans, des micro-entrepreneurs, qui testent leur activité. Et l'objectif, évidemment, in fine,
c'est qu'ils se lancent vraiment.
Voilà. Et là, j'ai un super exemple. Attica, dans une de nos boutiques, qui est une Marocaine récemment arrivée en France, qui fait un peu de la cuisine marocaine, qui faisait ça chez elle, qui a décidé de s'installer là, qui est devenue traiteur marocain, qui a tellement marché au bout de 1 an et demi, là, elle a acheté la boutique d'à côté et la boutique de traiteur Attica. Donc on est super contents parce que quand elle arrivait, elle savait pas parler français. Elle savait très bien cuisiner, par contre. On lui a donné des cours de français, on lui a obtenu ça.
Cuisine, c'est la meilleure des langues.
C'est
universel, on n'a pas besoin de se parler.
Voilà, ça marche très bien. Donc aujourd'hui, on a ces espaces-là. Demain, on veut les agrandir, c'est-à-dire qu'on a envie de réfléchir à adjoindre des ateliers de production.
Non, mais ça pourrait, par exemple, je lâche ça comme ça, mais si ça se trouve, vous avez évidemment déjà pensé. Je prétends pas avoir des idées géniales, mais dans des centres commerciaux qui ne fonctionnent pas ou qui ont des grandes boîtes à chaussures absolument immondes qui sont délaissées par telle ou telle grande enseigne, ça pourrait très bien faire l'objet de petites séparation et de... Ouais. Voilà.
Bah, grosso modo, notre concept, c'est celui-là. C'est un maire à, on va dire, un bâtiment...
Vide.
Donc, il ne sait pas quoi faire. Ne trouvera jamais un preneur parce qu'il est trop grand. Il n'est plus adapté aux attentes et aux besoins. Et ben, nous, on va le prendre. On va travailler avec l'écosystème pour identifier qui pourrait venir.
Et donc, vous louez,
venir.
Par exemple, si c'est un bâtiment qui appartient à une ville, elle a besoin, évidemment, d'un loyer. Donc, c'est vous qui prenez le bail ?
Oui. Alors, nous, on prend le bail, on paye les aménagements, on paye les charges, on paye tout. Donc c'est clé en main.
Vous êtes riche alors ?
Alors non, 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 non. Et les, sous-locataires, grosso modo, avec les loyers qu'on perçoit, doivent équilibrer les loyers équilibrent les charges, grosso modo. Mais ça ne paie pas notre ingénierie. Donc ça veut dire qu'on demande à la ville de payer notre ingénierie.
D'accord, bien sûr.
Voilà. Donc il y a un coût pour la ville quand même qui...
Alors moi je veux bien avoir des exemples un peu, je sais pas, en banlieue parisienne, un truc comme ça, parce qu'on se dit en banlieue, bah non, on n'a jamais besoin de vous, puisque incroyable territoire, c'est un peu, on va dire, le rural, les extensions des départements qui sont un peu éloignés. Si on s'approche un peu en première couronne, est-ce qu'il y a déjà des villes dans lesquelles vous avez pu intervenir, hein ?
Alors déjà, on est intervenu à Mantes-la-Jolie, donc on a fait ces programmes d'accélération, on est en train de discuter sur le fait de prendre en exploitation une des cellules commerciales qui est au cœur du centre-ville de Mantes et qui est propriété de la ville.
Et qui est vide.
Et qui est vide. Ils sont en train de le réhabiliter.
Ouais, okay.
Ils sont en train de le réhabiliter et c'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent y mettre.
D'accord.
Et ils se disent avoir un... Parce qu'en fait, au final, c'est un incubateur de commerce. Mmh. Avoir un incubateur de commerce en centre-ville, ça peut avoir du sens pour eux. Donc, on est en train de discuter des modalités avec eux. On est en train de discuter également avec Gennevilliers, mais on est même au cœur.
Et par exemple, à Gennevilliers, c'est parce qu'il y a plusieurs actes, il y a plusieurs endroits où il y a déjà des commerces. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'à un endroit, par exemple, dans une ville comme Gennevilliers, où il y a quand même une densité de population extrêmement importante, il y a des commerces qui périclitent?
En fait, Gennevilliers, c'est davantage de donner la possibilité aux habitants de Gennevilliers de pouvoir créer leur activité.
D'accord, ok, donc c'est différent.
Ça reste, en fait, la finalité, c'est de dire comment tous ces gens qui un potentiel d'entrepreneuriat peuvent être aidés créer. J'avais lu une enquête qui disait, je ne sais plus, c'est plus de 50% des Français dont le rêve professionnel est de monter un commerce. C'est-à-dire que c'est un truc qui fait rêver d'être indépendant. Ouais,
peut-être que
libre.
C'est d'abord le rêve de ne plus avoir de patron. C'est un
exactement,
peu différent.
Exactement.
C'est-à-dire on commence pas par. C'est pas le rêve de créer un commerce, c'est le rêve de ne plus avoir de patron. Donc c'est un peu différent.
Mais c'est un peu ça. Ouais. C'est être libre. C'est l'autonomie, c'est la grande aventure, c'est être seul, etc.
Enfin, l'autonomie, ça se paye parfois.
Ouais,
mais
ça
bon,
se paye. Ouais. C'est pas évident, je pense que tu le sais bien, on le sait tous. Donc voilà, il y a ça. Donc ça, c'est le problème. Mais on voit aussi aujourd'hui que sur la production des artisans, il y a aussi des enjeux d'avoir des outils mutualisés et des espaces mutualisés. Donc on est en train de travailler aussi ce concept.
Alors moi, je veux bien qu'on parle aussi d'éventuelles négociations avec le GIE Paris Commerce, parce que, alors pour le coup, à Paris, on a bien vu qu'il y a évidemment des problématiques de vacances. Et les problématiques de vacances, c'est aussi dû à des loyers extrêmement chers. Et donc, comment faites-vous pour pouvoir payer des loyers très chers et mettre dedans des petites cellules d'accompagnement, ça marchera ça à Paris ?
Bah, c'est...
Parce que les loyers sont très chers. Donc
les loyers sont très chers, mais surtout, si tu le divises à 5 et que tu te sers un peu, c'est l'intensification des usages des rez-de-chaussée, tu as plus de probabilité de réussir à payer le loyer à la fin du mois. Donc le pari qu'on fait, c'est de se dire, on va dans un espace assez grand, c'est pour des espaces justement assez grands qu'ils ont du mal à louer, grand,
Bien
pas
sûr.
Forcément adapté aux enjeux.
La rue de Rennes, par exemple, qui est vide à moitié pour moitié.
Ouais. Alors là, on
Des très très beaux espaces.
Ouais, et très très beaux espaces. Ouais. Là, c'est davantage justement sur des quartiers comme Porte de Montreuil, où il y a beaucoup de cellules commerciales qui vont sortir.
Bien sûr, oui, il y en a beaucoup.
Et les gens qui répondent aux appels à candidature de GIE Paris Commerce, c'est des gens qui ne répondent pas aux besoins de consommation du territoire.
D'accord.
Donc c'est des artisans ou qui vont produire des choses qui vont être vendues ailleurs, qui ne correspondent pas. Et la préoccupation du GIE Paris Commerce, c'est d'avoir des commerces qui répondent aux attentes et aux envies des habitants du territoire concerné, au moins en partie.
D'accord. Donc par exemple, moi je peste parce que j'arrive pas à trouver un bon cordonnier près de chez moi. Donc Porte de Montreuil, j'habite à la Porte de Montreuil, j'habite Mérite ou Montreuil, je vais pouvoir trouver le cordonnier.
Un cordonnier, il a besoin de 15-20 mètres carrés. Grosso modo, il y a des cellules commerciales de 15 mètres carrés, elles n'existent pas. Nous, on lui fait son espace, donc à Mende, c'est ailleurs, c'est en Lozère. On va justement mettre un espace cordonnerie qui est hyper attendu par les habitants.
Bien sûr.
et qui aujourd'hui a du mal à trouver son modèle si elle doit prendre toute seule une cellule commerciale grande. Donc voilà, on fluidifie et on facilite l'engagement, l'envie de tenter l'aventure.
Alors, on va dire qu'au bout d'un moment, il y a une partie dans un local, il y a à peu près une dizaine d'artisans différents, et puis peu à peu, certains jettent l'éponge, d'autres décident d'aller dans des locaux plus grands, et donc vous faites à chaque fois un appel à candidature, etc., qui fait qu'il y a un renouvellement, parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une partie de vacances.
Ah non. Alors, on a évidemment une petite vacance, mais qui est le temps de retrouver un repreneur. Alors là, pour l'instant, on a la chance quand même d'avoir plutôt une liste d'attente. Donc au final, dès qu'il y a un entrepreneur qui s'en va,
toujours faire envie.
Voilà, on le remplace immédiatement, etc. Après, évidemment, il faut que la mayonnaise prenne, parce que c'est un collectif qui se crée.
Bien sûr.
Des gens qui apprennent à travailler ensemble aussi, à partager. C'est pas toujours facile. Donc on doit faire beaucoup de pédagogie, beaucoup de psychologie aussi pour travailler sur les zones de conflit entre les gens et favoriser la coopération et la collaboration entre eux. Ça marche plus ou moins bien selon les collectifs.
Alors je veux bien qu'on parle de 1000 cafés.
Oui.
Bon, d'accord, c'est ambitieux, 1000 cafés dans les territoires. Ouh là là. Bon, c'est une belle idée. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez incroyable territoire à donc absorber 1000 cafés ou tu es devenu directeur général de 1000 cafés? Comment ça s'est passé?
Oui, alors ça pas absorber 1000 cafés. C'est je suis directeur général de 1000 cafés, qui est une structure indépendante, associative, qui vise après les gilets jaunes. Il y a eu un constat, c'est que le lien social dans la ruralité était déconstruit, que les gens n'avaient plus d'espace pour se rencontrer, pour discuter.
Ils étaient éloignés.
Et des études récentes montrent bien le lien entre des positions politiques extrêmes et le fait de plus avoir de commerce et de lieux. Il y a 22 000 communes en France, sur les 36 000, qui n'ont plus aucun commerce. Donc le pari de 1000 cafés, c'est pas en fait que des cafés.
C'est
des cafés
multi-services. Oui, c'est le café, épicerie, etc. Tabac, on n'est pas obligé de fumer. Les journaux, machin, etc.
Exactement.
C'est un lieu de rencontre.
Hein. Exactement, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de sociabilité. Et on y développe des animations socio-culturelles aussi pour permettre aux gens de se voir.
Non, mais donc du coup, vous venez quelque part aussi, parfois, contrecarrer, je suppose, les souhaits des villes de faire telle ou telle politique de la culture. Donc, comment fait-on pour mettre d'accord les élus
Alors, non, c'est les élus qui nous sollicitent. Quand on a lancé un appel à candidature il y a 4 ans, il y a 1700 maires de communes rurales, notamment en grande couronne francilienne, qui nous ont contactés pour dire « j'ai un local ». Alors là, il faut que le maire soit propriétaire, dans ce cas, la mairie soit propriétaire. « J'ai un local,
parce qu'il y a quand même une licence 4. Hein, et donc, comment elle se...
Ça se négocie, ça se rachète, etc. Donc il y a toute une prestation d'accompagnement pour identifier. Grosso modo, il y a trois modèles qui s'inventent à l'issue de notre prestation d'accompagnement. C'est soit un modèle entrepreneurial s'il y a un marché, soit un modèle associatif s'il y a des gens qui ont envie de donner du bénévolat et de monter ce café de manière bénévole, parce qu'il n'y a pas de modèle économique. Soit, s'il n'y a vraiment rien, on fait des guinguettes qui se baladent entre plusieurs villages. Voilà.
Bon, ça donne envie tout ça. Bon, on va faire un petit tour en roulotte, chers auditeurs de Conversation urbaine et architecturale. Donc, merci Hervé.
Merci Myriam.
Incroyable territoire et 1000 cafés. À bientôt sur nos antennes.
Conversations urbaines et architecturales. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.